Alors, juste pour information, on a depuis le mois de septembre l'habitude, au moins un dimanche sur deux, de parcourir un livre de la Bible qui s'appelle l'Épître aux Colossiens, et c'est ce que nous allons faire maintenant. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, il y a eu un premier volet que j'ai abordé début septembre, et ce premier volet mettait en évidence à la fois la divinité de Jésus-Christ, mais également l'objectif de sa mission sur terre qui était d'ôter le péché du monde. Et ce matin, il sera question donc de l'efficacité de son œuvre. Alors, une des particularités, vous l'avez bien compris, de cette matinée a été le moment où nous avons, Église et parents, présenté à Dieu nos plus jeunes enfants. Ainsi, ces enfants ont, selon moi, et je pense selon beaucoup ici, bien commencé leur vie. Ils ont un avantage certain sur bien d'autres enfants, celui d'être nés dans une famille chrétienne. Mais les parents sont conscients que ce n'est pas suffisant que d'être né dans une famille chrétienne. Encore faut-il bien commencer sa vie, c'est sûr, mais faut-il bien la continuer, la vivre, et surtout bien la terminer. Un poète a dit « L'homme le plus parfait » est celui qui sait en chaque chose considérer la fin. Et c'est pour cette raison que les parents recommandent à Dieu leurs enfants, afin que celui-ci se dévoile à leur cœur, qu'ils décident, ces enfants, de croire en lui, de lui confier leur vie, afin d'être sauvés. Alors, certains diront ou penseront, pourquoi devrions-nous être sauvés et de quoi, nous et nos enfants? Je vous invite à lire maintenant le texte retenu pour cette matinée qui nous parle de vie transformée. Pour ceux qui ont la Bible, ils peuvent suivre dans donc, l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, ce sont les versets 8 à 15. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jusque-là, la parole de notre Dieu. L'efficacité de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul met plusieurs choses en opposition, ou si vous aimez mieux, en contraste. D'une part, la vie avant la conversion en Jésus-Christ, vous étiez mort, et la vie après la conversion en Jésus-Christ vous a rendu à la vie. Et l'autre contraste, ce sont les dangers potentiels pour le chrétien, faites attention, et les assurances du chrétien, vous avez tout pleinement en Christ. Alors, regardons en premier, si vous voulez bien, le premier contraste, la vie avant la conversion et la vie après la conversion à Jésus-Christ. Alors, la vie avant la conversion, vous étiez mort. Et Paul en donne les raisons. À cause de nos fautes. Ce terme « faute » résume ou traduit le terme « péché ». Et ce que Dieu voit et juge en nous, ce n'est pas seulement nos fautes, mais Dieu voit et juge en nous la racine du mal qui s'y trouve, la racine du mal qui est en nous. Est-ce que nous avons besoin d'apprendre à nos enfants à faire ce qui est mal? Ou bien est-ce que nous avons besoin d'apprendre à nos enfants à faire ce qui est bien? Un historien français a dit « Le plus parfait d'entre nous n'est rien d'autre que le moins imparfait ». Cette racine du mal en nous fait que nous péchons. Et c'est ce que Paul appelle nos fautes. Et qui l'amène à déclarer « Vous étiez morts par vos fautes ». Et l'apôtre Paul de préciser qu'avant la conversion, nous étions, les Colossiens donc et nous, incirconcis de cœur. Alors la circoncision témoignait à l'époque d'une alliance entre Dieu et son peuple. Elle était l'image d'une purification par laquelle l'homme était partie intégrante du peuple de Dieu, ce qui nous est énoncé dans le livre du Deutéronome. Mais cette circoncision faite par la main de l'homme annonçait une circoncision du cœur à venir. Cette purification que Jésus allait opérer dans tout être humain qui mettrait sa foi en lui. Ainsi, faute, c'est-à-dire péché, et incirconcision, donc purification du cœur, engendre la mort et nous prive de la présence de Dieu. Voyons maintenant l'opposé, le contraste, la vie après la conversion, et ce dont nous sommes comblés dans cette autre circonstance de vie. Paul s'adresse dans ses textes aux chrétiens de la ville de Colosse. Et le verbe qu'il emploie dès le début est conjugué au passé. « Vous qui étiez morts ». Et il ajoute « Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait. Il a effacé. » Et le mot « effacé » ici ne signifie pas « dissimuler » dans le sens où il pourrait réapparaître un peu comme s'il avait été caché avec de l'encre sympathique. Et qu'il pourrait ainsi réapparaître à souhait dans le souvenir ou la mémoire de Dieu. Non, ici, effacer signifie enlever ou ôter complètement de manière définitive. Ésaïe 43, verset 25, c'est moi, c'est-à-dire Dieu, qui efface tes transgressions à cause de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ainsi, Paul s'adressait à des hommes et des femmes qui étaient passés de la mort à la vie, qui était passé du statut d'étranger aux choses de Dieu à celui de la vie en Dieu, converti à Christ. La conversion. La conversion, c'est une nouvelle naissance. Lorsqu'un homme et une femme ont donné naissance à un enfant, on a pour habitude de dire qu'ils ont engendré un enfant. Un être nouveau. Ainsi, c'est avec ce terme qu'est qualifiée l'œuvre de Christ dans le cœur des chrétiens. Épître de Jacques, il, c'est-à-dire Christ, nous a engendrés selon sa volonté. C'est-à-dire qu'il a fait de nous des êtres nouveaux, pas des êtres modifiés, mais nouveaux, transformés en profondeur. L'œuvre de Christ consiste à faire que tous ceux et celles qui croient en son nom et en son œuvre soient des êtres régénérés, nés de nouveau. Paul traduit « rendu à la vie ». C'est en comprenant et en accueillant personnellement, avec confiance, Jésus-Christ, que Dieu nous fait renaître à la vie par lui. Passons maintenant au second contraste ou opposition que Paul met en évidence dans ses textes, les dangers potentiels du chrétien, faites attention, et les assurances du chrétien, vous avez tout pleinement en Christ. Alors, les dangers potentiels. Paul, qui est en souci pour les chrétiens de Colosse, parce qu'il les sent en danger, leur rappelle les vérités fondatrices et essentielles de toute vie chrétienne. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Paul a plusieurs fois souligné dans ses écrits, dans le Nouveau Testament, la divinité de Jésus-Christ, pour montrer sa prééminence et sa supériorité sur tout. Mais cette fois-ci, Paul ajoute « vous ». C'est-à-dire vous qui êtes enfants de Dieu, vous avez tout pleinement en Christ. En quelque sorte, pourquoi chercher autre chose ou chercher ailleurs, puisque tout est en Christ? Sur cette base, une question pourrait être posée aux chrétiens d'aujourd'hui, qui pourraient, comme les Colossiens de l'époque, chercher ailleurs, ou qui seraient tentés d'ajouter quelque chose au salut de Jésus-Christ. Et cette question serait la suivante: êtes-vous satisfait de ce que Christ a fait pour vous? Si nous ne sommes pas entièrement satisfaits de ce que Christ a fait pour nous, nous courons le risque d'ajouter à la foi chrétienne des croyances ou pratiques extérieures à l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme si on voulait compléter cet évangile, qui serait pour nous insuffisant, incomplet, et qui en conséquence ne pourrait pas atteindre son but de salut, de joie, de paix et d'assurance chrétienne. C'était le problème que vivaient les Colossiens, problème majeur auquel Paul veut répondre. Le mot qui qualifie cette pratique s'appelle le syncrétisme, qui consiste à mélanger à la foi chrétienne diverses croyances ou pratiques issues d'autres religions ou d'autres systèmes de pensée. Pour les chrétiens de Colosse, le risque de syncrétisme réduisait dans les pratiques issues du paganisme ou de sectes juives de l'époque. Entre autres, celle de pratiquer la circoncision physique comme si celle-ci pouvait ajouter à leur foi, à leur salut, à leur appartenance à Jésus-Christ. Alors, comme définition du syncrétisme, on pourrait retenir cette parole de 2 Rois 17, verset 33. Ainsi, et l'on peut dire, et on peut le dire des Colossiens de l'époque et des chrétiens de nos jours, qui font acte de syncrétisme, ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. Sur le plan pratique, quelle forme peut revêtir aujourd'hui, pour les chrétiens, le syncrétisme? Alors certaines personnes qui se disent chrétiennes se livrent par exemple à des expériences mystiques ou ésotériques, dans le but d'être mieux reliées au monde spirituel. D'autres s'imposent des contraintes physiques, des privations, en sorte de mortification, dans le but d'être mieux ou entièrement purifiés de leurs péchés. D'autres consultent des exorcistes ou des marabouts dans le but de conjurer le mauvais sort afin d'être délivrés de telle ou telle souffrance. Alors nous n'allons pas passer le reste de notre matinée à citer les multiples exemples, mais rappelons néanmoins que malheureusement, dans certains milieux chrétiens, on imagine à tort enrichir le christianisme en désirant le rendre plus attrayant et plus acceptable pour l'homme moderne. Ce qui suppose améliorer le christianisme en le rendant plus facile à vivre, peut-être moins accusateur, plus confortable en quelque sorte. Tout cela nous montre que si l'on recherche ces choses, c'est que l'on n'est pas entièrement satisfait de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Un christianisme où les notions bibliques essentielles de faute, de culpabilité et le besoin de repentance ont disparu. Si nous n'avons pas, ou plus, la notion de faute et de culpabilité, comment pourrions-nous chercher à en être délivrés? Dans la lettre à Timothée, il nous est rappelé que toute la parole de Dieu est utile pour convaincre. La parole de Dieu est utile pour enseigner. Elle est utile pour instruire. Paul désire donc que les chrétiens de Colosse ne soient pas emportés ou égarés par de fausses doctrines qui peuvent les priver de leur paix et de leur joie en Jésus-Christ. Mais il a à cœur de leur rappeler que l'œuvre de Jésus en faveur des chrétiens est complète. Rien ne manque à cette œuvre. Toute proposition ou toute sollicitation extérieure à l'œuvre de Christ est une illusion. Elle représente un piège, nous dit la parole. D'où la mise en garde de Paul, faites attention. En conclusion, regardant le dernier volet de notre partage, les assurances du chrétien. Alors nous pouvons noter dans les textes que nous avons lus les termes de plénitude et de tout pleinement qui sont employés dans ce texte. Par ces expressions, l'auteur en vient à rappeler aux chrétiens authentiques que l'œuvre de Christ, ce salut accompli à la croix, est un salut complet. Tout ce qui devait être fait, tout ce qui pouvait être fait pour l'homme, Dieu l'a fait dans ce formidable et unique combat de la croix. En Christ se trouve toute la plénitude de la divinité. Et par le moyen de la foi, le chrétien se trouve uni en lui, en Christ. C'est-à-dire que le chrétien bénéficie à son tour de cette plénitude de Christ, de sorte qu'il ne lui manque plus rien. Paul dira aux Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et de continuer en faisant la liste de tout ce que le chrétien a en Jésus. Tout est en Jésus et tout vient de lui. Notre salut vient de Christ. Notre statut de racheté vient de Christ. Notre pardon vient de Christ. En Christ, nous sommes héritiers de Dieu. En Christ, nous sommes marqués du sceau de Dieu par son esprit en nous. Notre espérance vient de Christ. Notre destinée éternelle vient de Christ. Ainsi, toutes nos assurances sont en Christ. Parce que tout ce qui représentait les obstacles et les ennemis, tout cela a été ôté et vaincu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le verset 15 de notre texte, nous pouvons lire « Toutes les dominations, on peut imaginer les maléfiques, toutes les autorités, même celles de la mort, ont été démasquées, ont été désarmées, ont été vaincus. Ce qui veut dire qu'elles n'ont plus aucun droit, plus aucun pouvoir sur le chrétien. Et même si par ruse ou par surprise elles font parfois des dégâts, reste que le triomphe est en Christ. Et chacun est appelé soit à se souvenir, si ce n'est pas encore fait, soit à s'en saisir, si ce n'est pas encore fait, que pour notre vie présente et à venir, ainsi que pour notre destinée éternelle, salut et bénédiction résident dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et je vous laisse donc en conclusion ce texte de Colossiens du chapitre 1er, que vous puissiez partir avec ces pensées. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Que la parole de Dieu soit bénie dans vos cœurs. Amen.